Scepticisme scientifique. Le balado de la science et de la raison. Le seul balado sceptique enregistré en français et au Japon. Épisode 12. L'athéisme dans la science-fiction. Aujourd'hui, j'ai invité Alain Pelosato à venir discuter avec moi sur le balado. Il est le rédacteur en chef de Science Fiction Magazine. Dans l'épisode 6 du podcast consacré à Star Trek, j'ai déjà évoqué la question de l'athéisme dans Star Trek. Et il y a d'autres exemples du même genre. J'aimerais en évoquer un avant de passer à l'interview. C'est Les Chroniques de Narnia, qui est basé sur l'œuvre de C.S. Lewis. C'est évidemment de la fantasy. Et il a créé Les Chroniques de Narnia, en fait, pour propager la théologie chrétienne aux enfants. Donc, si vous avez vu les films, les deux films qui sont basés sur Les Chroniques de Narnia, vous aurez remarqué que le lion Aslan, en fait, n'est autre que Jésus-Christ, mais dans le monde de Narnia. Et par opposition, un auteur a créé The Golden Compass, donc la boussole d'or, et c'était en réaction aux Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Et The Golden Compass est une série de romans de fantasy, mais profondément athée, où là, cette fois-ci, les mauvais sont en fait l'Église catholique, le Magisterium, qui essaye de conquérir les mondes parallèles et d'imposer son dogme. En plus d'être l'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis est aussi l'auteur de Mere Christianity, qui est un classique de l'apologétique chrétienne. Dans cet ouvrage, il argumente principalement que la raison pour laquelle nous devons croire dans l'existence de Dieu est à cause de l'existence de la moralité. Donc la question se pose toujours, est-ce qu'il existe une morale objective, ou bien est-ce que la morale est une création purement humaine? Si la moralité est objective, c'est que forcément, argumente C.S. Lewis, c'est que Dieu l'a créée, et c'est pour cette raison que les êtres humains savent intuitivement ce qu'est le bien et le mal. C'est parce qu'en fait Dieu a mis en nous cette connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. En gros, l'existence d'une moralité objective prouverait, selon cet argument, l'existence de Dieu. Ce qui est toujours intéressant, je trouve, avec cet argument, c'est qu'à ce moment-là, on dit « Oui, ok, il y a une morale objective, mais si Dieu l'a créé, est-ce que Dieu a créé quelque chose qui était le bien dans l'absolu? Est-ce que le bien est le bien même pour Dieu? Ou bien est-ce que la décision de Dieu de créer la moralité telle qu'il l'a faite est arbitraire? Est-ce que, en d'autres termes, Dieu aurait pu créer un univers où le viol était quelque chose de bien et où donner aux pauvres est quelque chose de mal? Est-ce que le bien est le bien, quelle que soit la création, ou est-ce que c'est juste quelque chose en fait d'arbitraire donné par Dieu, quoi? Puis ce qui est marrant, évidemment, c'est que il y a absolument aucun acte rédhibitoire que Dieu ne commet pas lui-même dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu ordonne des génocides et d'autres choses aussi charmantes. Alors c'est marrant de dire il nous a donné la moralité, mais c'est le premier à enfreindre les règles qu'il nous a lui-même données. Évidemment, la position des athées est qu'il n'y a tout simplement pas de morale objective, et que la morale est un construit culturel que les hommes se donnent à eux-mêmes. De plus, la psychologie évolutionniste propose des pistes de réflexion sur comment la moralité est apparue. Par exemple, l'entraide au sein d'un groupe permet en fait de maximiser la survie des membres de ce groupe, et donc ce type d'entraide serait favorisé par l'évolution. Mais par contre, si l'évolution favorise l'entraide au niveau des membres de son groupe propre, elle ne favorise pas l'entraide vis-à-vis des gens qui seraient en dehors du groupe. C'est l'opposition entre in-group et out-group. Et donc cela expliquerait pourquoi nous avons facilement tendance à aider les gens qui nous sont proches. Mais par contre, c'est plus facile de déclarer la guerre à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Mais donc, on voit que... Enfin, là, je viens de simplifier les théories. J'ai fait un raccourci saisissant. Néanmoins, c'est pour montrer comment la psychologie évolutionniste peut expliquer en grande partie comment la moralité a émergé à travers l'évolution. Si vous avez donc l'occasion de voir The Golden Compass ou de lire les romans de Philip Pullman, c'est une trilogie de romans dont seul le premier volume a été adapté pour le cinéma, je vous le conseille.
Donc on voit que la thématique de l'athéisme et de la religiosité se retrouve profondément en science-fiction, que ce soit en hard science ou dans le space opéra, la Star Trek ou encore dans la fantasy. Et c'est ce dont je vais parler avec Alain Pelosetto.
Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, en fait, science-fiction et athéisme et quelle série
Eh bien, moi, d'abord, je suis un athée convaincu. Donc, j'ai toujours trouvé très agaçant les œuvres de science-fiction qui essayent enfin, qui se basent sur la Bible, enfin, sur les trois livres, hein, les livres des trois religions, hein, le judaïsme, le christianisme et l'islam, pour en faire des œuvres de fiction. Par exemple, j'ai toujours été très agacé par une grande œuvre qui est tellement adulée par beaucoup de gens que c'est difficile de dire ce que je vais dire, mais comme Dune, par exemple, je trouve que Dune, c'est vraiment un plagiat de la Bible, et particulièrement de l'Évangile, quoi. Donc voilà ma position. Maintenant, en ce qui concerne ma position personnelle, moi je suis athée, non pas... Je déteste pas du tout les religions, au contraire, je m'intéresse beaucoup aux religions, je trouve que c'est intéressant, c'est une partie très importante de l'histoire de l'humanité, assez récente, mais quand même importante, et particulièrement le christianisme m'intéresse beaucoup, parce que c'est une religion assez complexe, avec des personnages assez intéressants, qui sont relativement nombreux. Ben voilà, donc tout en m'intéressant aux religions, je n'aime pas trop les œuvres de science-fiction qui, sans le dire, essaye de transmettre un message religieux.
Oui, tu as donné un peu un exemple là, donc d'une œuvre avec une connotation religieuse. Quelle œuvre, selon toi, serait un bon exemple d'œuvre athée, quoi?
Je pense par exemple à toutes les œuvres à l'œuvre en général d'Asimov, qui base toute sa fiction sur des faits scientifiques, même s'il les invente, hein, même s'il les déforme, ou à Arthur C. Clarke, ce sont des gens qui, alors qu'Arthur C. Clarke, il a fait des trucs religieux. Mais ce sont des œuvres qui sont basées sur les sciences, et donc qui sont athées de par la définition même du mot science. Enfin, je pense à toutes ces œuvres qui ont, je sais pas, une vieille à l'idée, comment il s'appelle, Stéphane Boulle, c'est pour une fois que c'est un Français, qui a fait toute une œuvre aussi basée sur les autres espèces, des autres mondes, comment ça pourrait fonctionner. À l'époque, c'était quand même pas si courant. Maintenant, c'est devenu assez courant, et je trouve que c'est aussi un grand auteur qu'on a pas mal négligé. Le titre, par exemple, le titre le plus connu, qui est même devenu une référence dans le... ils l'ont mis dans le livre pour enfants, enfin, pour moi, il est tout à fait valable pour adultes, c'est N'Yurk.
Ouais.
C'est une œuvre post-apocalyptique où on voit ce que peut devenir l'espèce humaine après une catastrophe. Et bon, maintenant, c'est devenu courant comme genre d'histoire, mais lui, quand il l'a écrite, c'était pas courant du tout. Et il a aussi, met aussi dans ses œuvres beaucoup de science. Un dentiste, lui, de profession. On n'avait pas oublié que dans la science-fiction, il y avait science. Maintenant, on axe beaucoup plus sur le fantastique, la fantasy, mais voilà. Et je pense que le fantastique et la fantasy, surtout la fantasy, ils se prêtent beaucoup plus à des œuvres basées sur les religions.
Oui, c'est ça, les chroniques de Narnia en fantasy sont vraiment très très religieuses, c'est vraiment l'exemple un peu type. Évidemment, il y a dans Star Wars, quoi, qui est de la science-fiction, pas très scientifique, avec la force, qu'est-ce que tu en penses
Ouais, non, mais j'ai jamais aimé non plus trop. Non, ça m'a jamais vraiment emballé non plus. J'ai trouvé aussi que ça avait le bien, le mal, mais alors de manière caricaturale. Ça m'agace toujours d'entendre dans le bruit des vaisseaux spatiaux dans l'espace. On a beau leur dire, mais ils continuent à le faire. Et puis donc, c'est vraiment pas crédible du tout, mais je pense que la plupart des jeunes gens qui regardent ça, ils ne savent pas.
Oui, tu parlais de la question de l'absence de son dans l'espace. Je crois qu'il y avait finalement 2001, l'Odyssée de l'espace, avec Arthur C. Clarke, où ils ont tenu compte du fait qu'il n'y avait pas de son dans l'espace. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment faire de film de space opéra sans avoir de son dans l'espace. Ça paraît être un peu bizarre.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est toujours comme ça. Je me suis tapé l'autre jour, j'ai mis le temps, parce que je suis tapé toute la série Battlestar Galactica, qui est pas mal aussi, hein.
Ouais, pas
sur
mal.
Le plan, sur le sujet qu'on évoque, c'est vachement intéressant, parce que, il y a à la fois une tendance religieuse, et puis une tendance qui contrebalance cette tendance religieuse. C'est un peu au spectateur de faire son choix. La série elle-même, j'ai pas compris quel choix elle avait fait dans ce domaine, hein. Contrairement à Star Trek, par exemple.
Ouais, ouais.
Donc, là, c'est pareil, dans Battlestar Galactica, on entend toujours les bruits des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Bon, ils m'énervent, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, oui, pour Star Wars, moi, je trouve que c'est un contenu extrêmement religieux. C'est un peu aussi la science-fiction américaine, hein, qui, ouais, on sait qu'aux États-Unis, la religion, les religions, parce qu'il y en a énormément, ont un rôle très important. Et ça a une influence énorme sur le cinéma, par exemple. Enfin, j'ai cité 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça, c'était vraiment un truc d'Arthur C. Clarke, vachement très très artien, ça c'est vrai. Mais il y a quand même aussi un problème religieux qui est posé dans... Enfin, un problème, je ne sais pas si c'est religieux, enfin, c'est un peu hégélien, si je puis dire, en parlant philosophe. Puisque il y a une espèce de créateur, on ne sait pas qui c'est, on le saura après dans la suite 2010 qu'il s'agirait d'extraterrestres, mais dans 2001 on ne le sait pas.
C'est
donc
vrai.
Une espèce de créateur qui aurait créé l'espèce humaine et qui aurait donné l'intelligence à l'espèce humaine et qu'on va retrouver en allant aux alentours de Jupiter en vaisseau spatial, quoi. Donc là c'est pareil, hein, je ne sais pas, j'ai jamais su si le scénario était bien fidèle à ce que Arthur C. Clarke aurait voulu, ou si ça a été transformé un peu par le cinéaste. Mais je voyais mal Arthur C. Clarke quand même développer une philosophie comme celle-là. Pour dire franchement, la science-fiction francophone, c'est pas très transcendant en général. Hein. Mais non, ça m'a jamais vraiment bien emballé. Mais enfin, moi, il y a des grands auteurs, hein, comme Stéphane Voule, par exemple. Je n'en ai pas d'autres qui viennent à l'esprit, particulièrement des contemporains. J'ai jamais trouvé de... Mais je connais, par exemple, la science-fiction française par l'intermédiaire des films dont Pierre Bordage a fait les scénarios, comme Dante 01 et l'histoire de l'arbre, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, c'est quand même assez religieux. C'est un peu l'idée que Dante 01, c'est un peu Jésus-Christ qui arrive dans une prison spatiale, et puis l'autre, dont je me rappelle plus le titre, c'est un arbre qui donne tout à l'espèce humaine, mais qu'il faut qu'elle paye un certain nombre de choses. Donc, il y a une petite évolution avec l'écologie. Donc, on fait de l'écologie une espèce de nouvelle religion. C'est-à-dire que il faut croire que la planète a été sauvée, cette planète, elle est vivante, et donc, si elle est vivante, souvent personne ne le dit, mais moi je l'interprète comme ça, si elle est vivante, c'est que Dieu l'a créée. J'ai toujours du mal à rentrer dans, pour tout un tas de raisons, dans les institutions francophones, mais je me réfère aux deux films dont il a fait le scénario, sont d'ailleurs, je trouve que ces deux films sont intéressants sur le plan cinématographique, mais c'est le scénario qui est très faible. Voilà, je trouve que c'est un manque d'imagination. Les Américains ont beaucoup plus d'imagination que les Français. Les Français sont trop cartésiens. Ils ont peur de leur imagination, donc ils la maîtrisent trop. Voilà, c'est mon problème. Et par exemple, Stéphane Voule, qui était vraiment un Français raciste, quoi, qui avait donc une formation solide, matérialiste solide, eh bien, ce type, il avait réussi à développer une imagination assez intéressante. Moi, je pense quand même que la science-fiction, il y a toute une partie de l'œuvre de science-fiction qui est athée par définition, quoi. C'est-à-dire que la science-fiction, normalement, elle fait de la fiction à partir de l'évolution des sciences et des techniques, que ce soit des sciences dures ou des sciences humaines. Et à partir de là, Dieu ne peut pas intervenir, sauf si on considère la religion comme un objet d'étude de sciences humaines. Je sais pas, je suis pas assez qualifié pour le dire. Moi, je crois pas, hein, mais enfin, peut-être que ça peut s'envisager comme ça. Donc, pour moi, je me suis toujours intéressé à la science-fiction parce que je suis athée aussi. C'est une des raisons qui font que ça m'a intéressé. Donc, tout ce qui est une œuvre, toutes les œuvres de science-fiction qui consisteraient à du prosélytisme religieux, ben, je pense que Dune, par exemple, c'est vraiment du prosélytisme religieux. Hein. Vraiment, je le vois comme ça, hein. Même Star Wars. Hein. Et donc, ça m'agace un peu. Mais je suis pas contre non plus, hein. Faut pas exagérer non plus, mais voilà.
Tu es le rédacteur en chef du Science Fiction Magazine?
Oui, bah, Science Fiction Magazine, ça a été créé en 1998. Donc, c'est un magazine qui veut parler de la science-fiction dans tous ses états, si je puis dire, dans le domaine de la littérature, puisqu'on a une chronique libre qui est extrêmement importante, dans le domaine du cinéma, de la BD, on a aussi une critique des DVD, on a aussi une rubrique paranormale que tu tiens régulièrement depuis le début, puisque je sais que toi, tu étais à Science Fiction Magazine depuis le début. Et voilà, donc on continue tant bien que mal. Je crois qu'on a fidélisé un petit noyau de lecteurs, qu'on a pris notre place maintenant dans le paysage de la science-fiction en France, malgré les attaques assez nombreuses dont on a fait l'objet. Même avant du temps d'Alain Evans et d'Henri Lovenbrück, tout le monde dans le milieu du fandom critiquait Science Fiction Magazine, hein, parce que c'était un truc trop populaire, c'était pas assez intellectuel, et patati et patata, et ça a continué après. Mais ça ne fait rien, on continue, et on essaye de tenir le coup le plus longtemps possible, et je pense que pour le moment ça marche.
Et sinon, alors, parle-nous un peu de ta carrière d'écrivain, Pierre Dagone.
Oui. Eh ben moi j'ai commencé à écrire au début des années 90, j'ai écrit des livres sur l'écologie, parce que je faisais partie d'une association qui luttait pour l'écologie. Et j'ai commencé à écrire quelques romans de plutôt fantastiques, mais sur une base quand même un peu de science-fiction. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre un pseudonyme, et puis alors j'ai partagé, je suis devenu double. Comme tous les écrivains qui ont un pseudonyme, mon double qui s'appelle Pierre Dagon, lui, il écrit de la fiction, et moi, à l'Appel aux Atouts, j'écris des essais dans tous les dans différents domaines. Par exemple, le dernier livre que j'ai écrit dans les essais, c'est sur le risque technologique majeur, parce que c'était un peu ma profession, ça, enfin beaucoup même ma profession.
On s'était rencontrés il y a quelques années, physiquement, au lieu de virtuellement, à Châlons en Champagne, tu te souviens de la convention ufologique? Quel souvenir t'en as gardé de cette convention ufologique de Châlons en Champagne?
D'abord, moi, j'étais content de te voir, hein, puis j'ai écouté ton intervention qui m'a beaucoup intéressé. Ça m'a fait bien comprendre ce que tu fais, comme boulot, ce que c'est que le travail de sceptique, si je puis dire. Enfin, je pense à ne pas dire de bêtises. Par contre, bon, au niveau des ufologues, bon, c'est vrai que ça m'a fait un peu sourire quand même. Franchement, je comprends pas que des gens qui ont l'air aussi sérieux, j'ai pas trouvé j'ai pas été convaincu, quoi, par leurs arguments. Je me moque pas d'eux, hein, mais c'est ça qui est, voilà. Je les ai trouvés sympathiques aussi quand même. Des gens sympathiques, j'ai trouvé qu'il y a une bonne ambiance. Voilà, moi je n'ai pas été mécontent de cette expérience. J'ai rencontré des gens qui étaient passionnés par un truc, des gens qui sont passionnés par un truc qui m'intéressent toujours, et donc j'avais beaucoup de sympathie pour eux.
Je vous propose maintenant une page de publicité pour le balado Monster Talk, qui est un balado sceptique consacré à la cryptozoologie.
Hi, I'm a skeptic.
And I'm Bigfoot.
Yeah, I'm pretty sure you're not.
You shut up, y'all. I'm Bigfoot, and I'm running wild all over the U.S. of A.
Well, you're not very well documented.
Says you. I left tracks and possum innards all over the place.
Well, my name's Blake Smith, and along with my co-hosts, Benjamin Radford and Dr. Karen Stolzno, we take a skeptical look at the evidence for all kinds of monsters on our show, Monster Talk.
Other monsters? Like who?
Well, our show's pretty new, but we plan to take a look at lake monsters, sea monsters, Mothman, the Chupacabra, the Yeti, Orang Pendak, ghosts, ghouls, goblins, zombies, demons, and we might even check out the monster that lurks under your bed or in your closet.
Hey, you didn't say my name in that list.
Honestly, we've already done 2 episodes on Bigfoot, but the topic does keep coming up.
Hey, I know where there's a big old monster.
Where?
In my pants.
Don't go there. Instead, go to monstertalk.org or look up Monster Talk on your favorite podcast aggregator.
You mean iTunes.
Shut up, Bigfoot.
Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à consulter le blog Scepticisme Scientifique, à venir nous rejoindre sur la page des fans de Scepticisme Scientifique sur Facebook, à me suivre sur Twitter et à venir discuter avec nous sur le forum Scepticisme Scientifique. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassa. À la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.